4 minutos.
BBC's Brian Hanrahan witnessed.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Israelis running for shelter in Tel Aviv and Jerusalem.
Los que sí están llegando ya en masa al Río de Janeiro, al Maracaná.
Thanks so much for that report.
Et à 18h38, c'est Ailleurs dans le Monde avec vous, Olivier Poujad, bonsoir.
Bonsoir Mickaël.
Et nous partons pour Ramallah, dans les territoires palestiniens, où l'on reparle, Olivier, de l'intifada des couteaux.
Cette vague de violence qui secoue Israël et les territoires occupés depuis un an et demi maintenant, ces agressions serviraient aujourd'hui, Mickaël, de prétexte à l'armée israélienne pour agir en toute impunité. C'est en tout cas ce que dénoncent des organisations de défense des droits de l'homme, une politique du tirer pour tuer, adoptée par les forces de l'ordre israéliennes. Bonsoir Marine Vlaovic.
Bonsoir Olivier.
Marine, ces accusations ont commencé à se faire entendre à l'occasion du procès d'Elor Azaria, ce sergent franco-israélien condamné il y a un mois pour homicide pour avoir achevé un assaillant palestinien d'une balle dans la tête alors qu'il était à terre. Cette scène filmée avait choqué tout le monde.
Oui, ce coup de feu que vous entendez est tiré de la vidéo où l'on voit Elor Azaria abattre Abdel Fattah El-Sharif d'une balle dans la tête. C'était il y a un an tout juste, le 24 mars 2016 à Hébron, une ville du sud de la Cisjordanie où se cristallisent les tensions. Depuis, Elor Azaria a été reconnu coupable d'homicide, une condamnation toute symbolique pour les Palestiniens, car quelques minutes avant et au même endroit, un premier assaillant palestinien présumé aurait subi le même sort. C'est en tout cas ce qu'affirme nous Abou Eché, l'un des seuls témoins présents ce jour-là. Posté sur le toit de sa maison, il pointe un doigt fébrile vers le checkpoint où s'est déroulée la scène.
Ramzi Al-Kasraoui était allongé par terre. Le soldat lui a tiré 2 balles dans la tête.
Si le jeune palestinien ne semblait pas non plus représenter une menace, le militaire en question n'a pas été inquiété. La raison, aucune vidéo ne peut en témoigner, regrette des organisations de défense des droits de l'homme.
Et ce que dénoncent ces ONG, Marine, c'est clairement une politique du tirer pour tuer adoptée par les Israéliens.
Oui, par exemple, Human Rights Watch et Al-Haq, la plus ancienne organisation palestinienne de défense des droits de l'homme, qui ont mené une vaste enquête sur la vague de violence secouant les territoires palestiniens et Israël depuis l'automne 2015. Après avoir décortiqué plus de 150 dossiers litigieux d'assaillants palestiniens tués par l'armée ou la police israélienne, elles affirment que dans 85% des cas, il s'agit d'exécutions sommaires, car les forces de l'ordre n'étaient pas en situation de légitime défense, selon Tarsine Elayan, responsable de la section enquête et documentation d'Al-Haq.
Les Palestiniens accusés de mener des attaques au couteau auraient pu être facilement contrôlés par les soldats qui auraient pu tirer sur la partie basse du corps. Dans de nombreux cas, les assaillants présumés étaient déjà neutralisés. Et les soldats ont continué à tirer. Ce qui veut dire qu'il existe une politique du tirer pour tuer.
Existe-t-il des directives? Une tolérance zéro est-elle prônée au sein des forces de l'ordre israéliennes? L'armée, en tout cas, s'en défend et affirme que chaque cas suspect fait l'objet d'une enquête.
Mais généralement, une enquête doit servir à fournir des preuves, Marine.
Et elle manque souvent à l'appel, notamment les images des caméras de vidéosurveillance des checkpoints que l'armée ne fournit que trop rarement selon les ONG. C'est le cas pour la mort du jeune Mahmoud Chalan. Dans sa villa cossue, située à quelques kilomètres de Ramallah, Fawzia fait visiter la chambre de son fils, désormais vide. L'adolescent a été tué par des soldats israéliens en février 2016, alors qu'il tentait de passer à pied un checkpoint réservé aux voitures.
Il voulait juste traverser le checkpoint. Il avait seulement 16 ans. Ils auraient pu lui demander des preuves, ses papiers, ou le laisser passer, pas lui tirer dessus et le tuer. Nous, ce qu'on attend, c'est d'obtenir justice. Et si ce n'est pas pour Mahmoud, que ce soit au moins pour les autres enfants. Justice pour tous.
L'autopsie a démontré que Mahmoud Chalan a été tué de 7 balles dans le dos et qu'il rebroussait donc chemin. Difficile dans ces conditions d'être en position d'attaque et c'est pour cela que la famille espère obtenir justice. Mais même les organisations israéliennes n'ont plus confiance dans le système judiciaire. 97% des 150 affaires suivies de près par les organisations de défense des droits de l'homme ont été classées sans suite. Elles comptent saisir prochainement la Cour pénale internationale sur ces dossiers. Ce que l'on nomme l'intifada des couteaux a déjà coûté la vie à 257 Palestiniens et à 40 Israéliens depuis octobre 2015.
Marine Vlaovic en liaison avec nous depuis la ville de Ramallah dans les territoires palestiniens.
Et retour maintenant, Olivier, sur les 6 années de guerre qui ont dévasté la Syrie avec la trajectoire d'une famille originaire d'Alep.
Un exemple parmi des milliers d'autres captés par un journaliste allemand. Marcel Mettelsifen a suivi pendant 3 ans, Michael, de 2013 à 2015, le quotidien d'Alaa et de ses enfants. Une famille qui a choisi, dès le début du conflit, le camp de la rébellion, de la vie sous les bombardements permanents du régime jusqu'à l'exil d'une partie de la famille en Allemagne. Cela a donné un film, Watani, mon pays. Bonsoir Claude Guibal.
Bonsoir.
Vous avez rencontré cette famille syrienne dont le sort a même fini par émouvoir Hollywood puisque ce documentaire a été nominé aux Oscars.
Oui, c'est une famille dont le destin aurait pu être différent s'il n'y avait eu la guerre. Une famille de la classe moyenne d'Alep, lui est fonctionnaire, elle est ingénieure. Ils ont 4 enfants, une belle maison, puis éclate la révolution. Passé le temps des premières manifestations, vient le temps des bombardements. Le père, Abou Ali, a pris les armes. Il est devenu le chef d'une katiba de l'armée syrienne libre. Dans la maison, sur la ligne de front, on voit donc les enfants âgés de 4 à 12 ans jouer à la poupée au milieu des kalachnikovs. Farah, la petite, dit qu'elle aime bien aller voir papa au bureau lorsqu'il fabrique des bombes, jusqu'au jour où les djihadistes du groupe État islamique kidnappent Abou Ali.
Et c'est à ce moment-là, Claude, que la vie de cette famille bascule à nouveau.
Oui, alors pendant des mois, d'abord elle a attendu, puis elle a fini par fuir avec ses enfants via la Turquie jusqu'à Goslar, en Allemagne.
Vous savez, en permanence, j'ai l'impression de ne pas être réveillée. Quand je suis dans la rue, je regarde autour de moi, ça n'est pas mon pays, ce ne sont pas les rues que je connais. Je ne connais personne. Chaque nuit, je pleure et je me dis que je n'aurais pas dû venir ici. C'est très difficile pour moi. C'est une nouvelle vie. Il faut apprendre une nouvelle langue. Il faut apprendre à se débrouiller. Tout est nouveau pour moi, mais je suis tellement fatiguée. Ma tête ne veut plus rien apprendre. Elle est trop pleine. Elle va exploser si j'y rajoute quelque chose. Mais quand vous avez 4 enfants, vous devez être forte.
À Goslar, il a fallu, pour Alaa et sa famille, peu à peu s'adapter. Les filles se sont vite mises à l'allemand. À 14 ans, la grande Hélène ne porte plus son voile. Et puis il y a l'aîné, Mohamed, presque 16 ans, tellement habitué au bruit des bombes qu'il avoue parfois que cela lui manque. Mohamed, qui en arrivant a dû affronter les regards et les questions.
Ça m'a surpris qu'il y ait des gens racistes. Pas tous le sont, mais il y en a qui m'ont dit « Pourquoi t'es venu dans mon pays ?» Certains m'ont dit « Rentre dans ton pays », alors je leur ai répondu « Demande à ton grand-père ce que ça veut dire la guerre. »
Claude, comment cette famille se reconstruit-elle en Allemagne? Comment grandissent ces enfants?
Alors, pendant que leur mère parle, les filles sur leur smartphone sont en train d'écouter de la pop allemande. Mohamed, lui, se projette déjà plus tard, il veut devenir journaliste. Et puis, il y a Alaa, la mère, avec son voile sobre et cette cigarette qu'elle allume dehors, ce sourire, ce calme, qui masque une douleur qu'elle refuse d'afficher.
When I sleep. Quand je dors, quand je suis assise là avec vous tout le temps, je n'ai aucun repos. Je pense en permanence. Je veux savoir ce qui s'est passé, où il est, est-ce qu'il est vivant, est-ce qu'ils l'ont tué, je ne sais pas. Et vous savez, si vous pouvez travailler, c'est plus facile. Je veux travailler, car je veux pouvoir oublier.
Oublié car la famille vit au rythme des nouvelles du pays, des appels sur WhatsApp. La famille vit au rythme des morts et pour Mohamed, la culpabilité est permanente.
Si tu as quitté ton pays et que toi tu es à l'abri pendant que ton peuple, que ta famille est toujours en Syrie et que certains meurent, tu sais que tu serais mort avec eux. Quand mon cousin est mort, j'ai tellement pleuré. Je ne pouvais pas y croire, je ne pouvais pas croire que je l'avais laissé mourir là-bas. Moi, j'ai eu la chance de sortir de Syrie.
Des négociations de paix se déroulent actuellement en Syrie. Claude, on peut dire que la fin de la bataille d'Alep, il y a 2 mois, a marqué un tournant dans cette guerre.
Oui, absolument. Olivier, pour Alaa et ses enfants, c'est le sort de la Syrie et c'est leur avenir qui s'est joué à Alep.
Quand on est arrivé, j'ai dit à mes enfants, on est des visiteurs. On va rester un peu et puis on rentrera. Quand on a perdu Alep, je ne suis pas sortie pendant 2 semaines. Je ne voulais aller nulle part, je ne voulais parler à personne. J'étais tellement, tellement triste. À ce moment-là, j'ai compris que j'avais tout perdu. J'ai perdu mon mari, j'ai perdu mon pays. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais devenue une réfugiée.
Alors demain matin, Ala va mettre sur l'écran de son téléphone la photo de son mari. Et comme tous les matins, Ala va poser ce téléphone avec cette photo sur la table où, là encore, tous les matins, elle prépare deux tasses de café. L'une est pour elle, l'autre est pour celui dont elle continue désespérément d'attendre des nouvelles.
Merci à vous Claude Guibal et l'on salue bien sûr le travail remarquable du documentariste allemand Marcel Mettelsiefen, le titre de son film « Watani, mon pays ».
Un témoignage bouleversant. Merci beaucoup Olivier Poujade.